Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton, Marc Goléry, dont Corentin Monsoir, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Toute cette semaine dans Culture Monde, donc, nous allons nous mettre au rythme du Ramadan avec 4 émissions dédiées aux formes contemporaines de ce rite ancestral. Demain, on s'intéressera à la frénésie consumériste qui l'accompagne. Mercredi, place à sa dimension morale, puisqu'on parlera de dons, de charité. Et enfin, jeudi, plongé dans les divertissements télévisuels qui fleurissent au moment où les journées se font un peu longues. Mais tout de suite, direction le Maghreb, où le Ramadan n'est pas qu'un temps religieux, mais aussi un moment politique. C'est d'abord un grand moment de joie collective, mais c'est aussi un moment où se jouent des conflits sociaux, sociétaux, et donc un moment éminemment politique.
Il n'y a aucune raison que l'État s'implique, force des gens à faire le Ramadan. Donc ce n'est pas un conflit avec l'islam. Normalement, on est libre de le faire ou de ne pas le faire.
La Kabylie, c'est une région ciblée en Algérie, où il y a le plus de mosquées en Algérie, où on pousse le jeûne. Et être algérien, ce n'est pas seulement être musulman. On peut être laïque et algérien, on peut être athée et algérien, on peut être chrétien.
Il n'y a aucune loi dans la législation tunisienne qui dit que tout le monde doit jeûner ou que les non-jeûneurs ne peuvent pas le faire en public. Fatal en tunisien veut dire non-jeûneur. Ça reste un tabou, ça reste quelque chose que les gens font discrètement. Ceux qui l'affirment et le revendiquent sont une minorité, mais pas ceux qui le font.
Cette semaine démarre un mois sacré où la vie s'inverse. Abstinence est retenue, le jour est festin et fête la nuit. Au Maroc, en Tunisie ou encore en Algérie, ce rite est collectif bien sûr, populaire et soutenu par l'État. Magasins fermés, heures aménagées, prix des denrées alimentaires encadrés, tout est fait pour faciliter le jeûne. Mais les transgressions peuvent aussi être punies. En effet, au Maroc, par exemple, où l'islam est la religion d'État, cette pratique est même inscrite dans le code pénal et l'article 222 stipule qu'il est interdit de manger, de boire ou de fumer en pleine journée pendant ce mois sacré, une mesure qui viserait à, je cite, préserver l'ordre public. Voilà ce que disent les autorités. Et les déjeuneurs, les non-jeuneurs, ceux qui se permettent de manger pendant ce temps sacré, peuvent même faire parfois l'objet d'arrestations. Alors pourquoi ? Ces non-jeûneurs dérangent-ils autant? Comment cette expérience religieuse, collective, organisée par l'État, lui permet-elle de consolider son autorité dans un pays où l'islam est majoritaire, contester le Ramadan? Est-ce contester aussi l'autorité politique? En somme, que cristallise ce mois sacré? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités, d'abord ici avec nous à Paris, Sophie Bessis, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes historienne et puis vous venez de publier une somme sur l'histoire de la Tunisie, de Carthage à nos jours, qui est parue aux éditions Talendier. En duplex avec nous de Chambéry, Aouès Séniguer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous politologue, chercheur au laboratoire Triangle de Lyon et puis co-auteur d'un ouvrage qui était paru l'année dernière, Spiritualité et engagement dans la cité. Je vais commencer avec vous, Sophie Bessis. Chaque année sont rapportées des affaires d'arrestation de déjeuneurs, de non-jeuneurs, ces musulmans qui ne respectent pas le jeûne du Ramadan. On a même des affaires où ces non-jeuneurs sont violentés par certains de leurs concitoyens. Pourquoi ce phénomène de non-jeûne est aussi condamné? Est-ce que c'est seulement pour des raisons religieuses ou est-ce qu'il y a aussi autre chose?
Les deux, bien sûr. Ce sont des raisons religieuses, mais c'est une raison politique avant tout. Il ne faut pas oublier que dans les trois pays du Maghreb, comme vous l'avez dit, au Maroc et en Algérie, le fait de manger ou de fumer, enfin, en public pendant le mois de Ramadan est passible de sanctions pénales. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie. En Tunisie, ce n'est passible d'aucune sanction pénale, mais il y a une pression politique et sociale qui est, je dirais, presque aussi importante. Donc, au Maroc et en Algérie, l'islam est religion d'État, très clairement, et pas seulement au Maroc. En Tunisie, la chose est un peu plus ambiguë du fait de l'article 1er de la Constitution tunisienne qui dit que l'islam est la religion du peuple tunisien, en gros, que la religion des Tunisiens. Moyennant quoi, il faut comprendre que le Ramadan est un moment paroxystique dans la pratique religieuse, et ça c'est l'aspect religieux, mais que depuis une trentaine d'années, on va dire, à peu près, en Tunisie en tout cas, en Algérie, au Maroc, ça a toujours été beaucoup plus strict, depuis une trentaine d'années, eh bien, il y a ce qu'on appelle communément un retour du religieux, qui fait que non seulement l'observance est beaucoup plus grande, mais la tartufferie, si je puis me permettre ce vocable, l'est encore davantage, c'est-à-dire que on se cache pour manger. On estime, il n'y a aucune enquête réellement scientifique sur la chose, mais on estime qu'en gros, la moitié de la population tunisienne, 50% de la population tunisienne fait réellement ramadan. Mais dans l'apparence, c'est plus de 90%. Hein. Donc voilà, donc c'est à la fois ce mélange de retour du religieux dans sa forme la plus conservatrice, la plus ritualiste, l'instrumentalisation politique du religieux qui est une constante de ses pouvoirs, à des degrés différents certes, mais c'est une constante de ses pouvoirs.
Et on va voir justement comment dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de la Tunisie, justement, on a appréhendé peut-être de manière différente cette question du ramadan. Est-ce que ça nous révèle justement peut-être du progressisme ou du conservatisme des différents régimes? Mais Aouez Séniguer, peut-être un mot, parce qu'il faut bien comprendre, on s'en rend pas forcément compte ici en France, mais au Maghreb, le ramadan, c'est un moment où l'État déploie énormément de moyens et d'énergie pour s'assurer que les croyants vont pouvoir avoir tout ce dont ils auront besoin. Il y a un suivi très strict sur l'approvisionnement, il y a des commissions qui sont chargées du contrôle des prix des différentes denrées, il y a même des subventions pour certaines de ces denrées. C'est une épreuve organisationnelle qu'il s'agit de pas rater. C'est presque un rôle régalien que celui de s'assurer que tout le monde va pouvoir faire ramadan dans de bonnes conditions. Donc dans ce contexte, on comprend que le non-jeûne, le déjeûne, c'est une offense au fond à l'État et à sa capacité de gérer tout simplement la conduite des États, ouais, Séniguer.
Oui, il y a un aspect paradoxal, d'ailleurs, si on s'attarde effectivement sur le cas marocain, puisque, en effet, c'est commandé par le haut, le ramadan, l'observance publique du ramadan est commandée par le haut, elle est à la destination de la société civile, des sociétaires marocains, mais en étant ordonnée par le haut, ça oblige également les acteurs politiques à la dite contrainte, à la contrainte, en effet, d'observer, ne serait-ce qu'en apparence, le jeûne du mois du Ramadan. Dans le cas du royaume chérifien, il y a des aspects qu'on ne retrouve pas forcément, et Sophie Bessis a eu raison de le souligner, dans le cas tunisien ou même dans le cas algérien. En effet, n'oublions pas qu'au Maroc, il y a un commandeur des croyants, la commanderie des croyants, qui a été écrite et inscrite en lettres d'or dans le cadre de la Constitution de 1962, et que par conséquent, l'organisation par le haut est beaucoup plus systématique et systématisée. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir au cours de l'émission, mais dès les premières années de l'arrivée au pouvoir de Hassan II, c'est en 1961, il va instaurer des causeries religieuses. Et effectivement, la question du ramadan est une question spirituelle, et il ne faut pas le négliger, il ne faut pas sous-estimer l'aspect spirituel communautaire de fraternité qui existe, mais aussi une question, je dirais presque, de survie politique de la part de la monarchie, et on pourra égrener quelques exemples illustratifs.
On en parlera, ouais, Séniguer, parce que j'ai prévu effectivement de consacrer une partie de cette émission à ces fameuses causeries. L'importance justement de ce côté un peu organisationnel de la chose, faut quand même réaliser qu'au Maroc, alors moi j'ai appris ça, je savais pas du tout, mais il existe même un numéro de téléphone qui est dédié aux consommateurs qui voudraient poser des réclamations ou des remarques sur l'approvisionnement auprès des autorités. C'est le 5757, j'ai vu ça. Sophie Bessis, souvent, avant le mois de Ramadan, il y a aussi des chefs d'État et de gouvernement qui prennent la parole pour faire un certain nombre d'annonces sur des mesures de contrôle des prix notamment. Mohamed VI l'a fait le mois dernier. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed l'a fait aussi. Il y a eu un grand discours, c'était le 16 avril, je crois, le 16 avril dernier. Il y a eu un certain nombre de mesures sur le pouvoir d'achat et notamment sur la question du contrôle des prix pendant le Ramadan. Donc ça veut dire qu'il y a souvent des annonces politiques à ce moment-là. Au fond, c'est un moment propice pour lancer un certain nombre de réformes, en tout cas engager des mesures spécifique en matière de pouvoir d'achat?
Non, lancer des réformes, non, en général. Ce qu'il faut d'abord comprendre tout de même, c'est que quand les responsables politiques font ces annonces en matière de prix, d'approvisionnement, puisque il ne faut pas oublier que, si vous voulez, le mois de Ramadan a dévié de sa fonction spirituelle de départ, c'est-à-dire que c'est un mois de surconsommation, de gaspillage absolument insensé.
Ce sera notre sujet de demain.
Bon, Ah d'accord. Donc, et donc, moyennant quoi, cette surconsommation fait que, cette surconsommation fait augmenter les achats et qu'il convient pour les pouvoirs publics, pour ne pas que la population y trouve à redire, d'assurer l'approvisionnement en viande, en œufs, en mangeant.
Oui, parce qu'il y a des abus, il y a de la spéculation à ce moment-là.
Il y a de la spéculation, donc les gouvernements font extrêmement attention à ça. Mais ce n'est pas l'occasion de faire des réformes en matière de pouvoir d'achat et de prix, hein, pas du tout. C'est simplement le souci pour les gouvernements de gérer au mieux et au plus près ce mois extrêmement problématique au niveau de la consommation et de l'approvisionnement, problématique au niveau religieux, parce que là où les mouvements salafistes et les mouvances djihadistes sont importantes, ce sont des moments paroxystique en ce qui concerne la violence et l'intolérance, hein, donc ça je suppose que l'on en parlera, mais c'est extrêmement...
Mais ça veut dire que c'est aussi un moment où se joue la légitimité au fond du pouvoir en place quand même, parce qu'il faut il faut se montrer à la hauteur quand même.
Je n'irai pas jusque-là, la légitimité du roi du Maroc, certes, puisque au Maroc, la commanderie des croyants fait que, eh bien, il est responsable de la bonne tenue du Ramadan. Je ne parlerai pas de légitimité. Je crois que c'est une légitimité par défaut, en quelque sorte, et non pas une légitimité officielle. C'est-à-dire que les pouvoirs en place, encore que en Algérie, en Tunisie, c'est pas tout à fait la même chose, mais les pouvoirs en place ayant assis une partie de leur légitimité sur l'islam, sont obligés de bien gérer le mois de Ramadan. Donc la légitimité des pouvoirs en place n'est pas sur le Ramadan proprement dit, mais est sur le fait religieux. C'est-à-dire que tous les pouvoirs et les mouvements de libération nationale qui les ont précédés, puisqu'en général ils en sont issus, eh bien, ont toujours instrumentalisé la religion pour asseoir leur pouvoir sur les masses, sur les populations.
Ouais, Séniguer, la question pénale, je le disais dans mon introduction, il existe un article dans le code pénal marocain qui condamne le fait de ne pas respecter le jeûne. Qu'est-ce qu'on risque très concrètement en public? Qu'est-ce qu'on risque très concrètement? Que dit la loi marocaine? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Ouais, Séniguer?
Je vais tenter de le faire, mais je dirais au préalable qu'il y a un effet supplémentaire de contrainte par la loi. Mais en réalité, en amont de la loi, c'est-à-dire en amont de l'application même de la dite loi, il y a un effet de contrainte sociale. Je vais donner un exemple concret, puis cela permettra de répondre à votre question. En 2009, au moment de l'émergence, de l'érection du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, le Mali, hein, qui avait organisé un déjeuner public entre Rabat et Casablanca, le Mohamedia, d'ailleurs Zineb El Razoui en faisait partie avec Ibtissem Lachgar, ce déjeuner a été effectivement réprimé par la police, qui a appréhendé les déjeuneurs ou ceux qui s'apprêtaient à déjeuner. Mais le regard même du Marocain, puisqu'il y a un tropisme conservateur au sein de la société, c'est-à-dire qu'il y a un effet de contrainte avant même d'envisager éventuellement l'application de la loi, où le regard de l'autre est inquisitorial. Je me souviens d'une prise de parole d'ailleurs de Mustapha Ramid, qui est devenu un grand personnage d'État par la suite, après l'arrivée au pouvoir des islamistes en 2011, qui avait dit, si on autorise et si on permet au Maroc des déjeuners publics, demain il pourrait y avoir l'autorisation, la légalisation de la pédérastie. Vous voyez l'analogie, pour le moins douteuse, entre la pédérastie et le déjeuner public. Vous risquez concrètement d'être appréhendé par les services de police, réprimé, mis à l'amende, etc.
Un mois à six mois de prison et une amende de 200 à 510 dirhams, c'est ça que j'ai lu. Pour quiconque, je cite, quiconque notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion. Dit le Coran à Ouest Séniguer sur ce sujet-là, concernant les musulmans qui ne respecteraient pas le jeûne?
En fait, la contrainte sociale va plus loin que les prescriptions coraniques, puisqu'on sait qu'il y a des exemptions pour l'observance des exceptions pour l'observance du Ramadan pour les musulmans observants. C'est-à-dire qu'un voyageur, par exemple, à compter de 80 kilomètres, pourrait éventuellement rompre le jeûne du mois du Ramadan, ou une femme qui a ses menstrues, etc., ou un malade. Mais même la personne malade qui est en voyage ou qui est en état de menstrues, pour respecter formellement l'observance, ne s'engage pas dans la, si vous voulez, dans le fait de rompre publiquement le mois du Ramadan, parce que publiquement, tout est organisé, vous l'avez dit en introduction, on l'a répété, tout est organisé de sorte à ce que personne ne puisse faire dissensus par rapport à la norme commune.
Ouais.
Donc, il y a des effets de la loi, et dès lors que la loi, même si elle n'est pas appliquée, parce qu'il y a des dispositions normatives, puis ensuite il y a des réaménagements possibles, peut-être que la peine est commuée, etc. Mais il est certain que tant que la loi existe, cela démontre à l'évidence qu'une rupture vis-à-vis de cette norme collective entraîne ipso facto, à minima, une répression sociale.
Ouais, et puis, c'est pour poursuivre un tout petit peu sur la question des dispenses, vous parliez des voyageurs et des malades, il peut aussi y avoir d'autres cas un peu exceptionnels. 2012, les JO de Londres, il y a une fatwa qui dit que les sportifs marocains ont le droit de ne pas respecter le jeûne du Ramadan pendant les Jeux Olympiques.
Tout
donc on
fait.
Voit qu'il y a des adaptations, effectivement.
Et, Sophie, il y a aussi des alternatives au mois de Ramadan, c'est-à-dire que si l'on ne respecte pas pour des raisons canonique, disons, hein, le mois de Ramadan, eh bien, on peut nourrir une famille pauvre, par exemple, qui équivaut à respecter le Ramadan. Mais je voudrais revenir sur cette affaire très importante de pression sociale. Mmh. En Tunisie, où il n'y a pas de sanctions pénales pour le Ramadan, hein, on peut, selon la loi, tout le monde peut manger, les restaurants où les cafés peuvent rester ouverts. Eh bien, que se passe-t-il depuis des années et des années? Les restaurants et les cafés ferment. Certains restent ouverts et mettent des journaux sur les vitres. Tout est
pour pas que
oblitéré.
La clientèle soit embêtée.
Tout est oblitéré pour que les gens puissent prendre leur petit déjeuner à l'intérieur sans qu'on ne les voie de la rue. Et il y a eu toutes ces dernières années, des sanctions, on a mis des gens en prison parce qu'ils mangeaient en public. Alors, comme il n'y a pas de loi spécifique, eh bien, on les emprisonne pour atteinte à l'ordre public, pour comportement indécent. Voilà, donc, puisqu'il n'y a pas de loi. Et là, on va... là, il y a une régression très réelle. Parce que si on prend le début de l'indépendance, l'année 1960 en Tunisie, et l'année 1960, où, quand le président Bourguiba avait demandé à la population tunisienne de ne pas respecter le jeûne du Ramadan. Alors là, vous avez une double illustration, cette fameuse affaire du Ramadan par Bourguiba. L'illustration du fait que c'était une politique moderniste et l'illustration du fait que c'était un État séculier amarré à l'islam dans la mesure où la justification était religieuse. 1960, Bourguiba fait un grand discours en disant, voilà, je vous autorise, non seulement je vous autorise à ne pas jeûner à Ramadan, mais je vous incite à ne pas jeûner à Ramadan, il ne faut pas jeûner parce que nous sommes dans une période de jihad majeur. La lutte pour le développement est un jihad majeur. Et donc, pendant le jihad, on peut ne pas jeûner. Et à l'époque, il avait demandé aux oulémas, les docteurs de religieux, de promulguer une fatwa, ce que les oulémas avaient refusé de faire, d'ailleurs, ce que... Et en fait, à l'époque, tous les cafés étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts, la cafétéria de l'université était ouverte, et aujourd'hui, ce serait inimaginable, ce qui s'est passé en Tunisie dans les années 60. Donc, vous voyez que il y a un retour du religieux, mais pas de n'importe lequel, dans sa version la plus normative et la plus conservatrice.
Donc, vous voulez dire que, par exemple, quand en 2017, il y a des dizaines de personnes qui manifestent pour réclamer le droit de manger et de boire en public durant le Ramadan pour protester contre l'arrestation d'un certain nombre de non-jeûneurs, au fond, il ne s'agit pas seulement de la question du Ramadan et du jeûne, mais il s'agit bien d'autre chose. Il s'agit en fait de question de liberté individuelle,
certes,
de façon générale en réalité.
Certes, en 2017 par exemple, 2017 et 2018, vous avez un collectif en Tunisie qui s'est créé, qui s'est appelé Moujbessif. En arabe, Moujbessif, ça veut dire pas par force.
Pas contre notre volonté.
Pas par force.
Pas par force.
Moujbessif, c'est pas par force. La constitution tunisienne de 2014 introduit explicitement la liberté de conscience. C'est écrit noir sur blanc. Or, évidemment, le fait d'interdire aux gens de ne pas pratiquer la religion est une atteinte à la liberté de conscience. Donc, en fait, on est dans une contradiction, dans une contradiction totale entre un certain nombre d'énoncés libérateurs, émancipateurs, comme celui de la liberté de conscience. Mmh. Et la liberté de conscience est beaucoup plus importante que la liberté de culte, dans la mesure où il s'agit de la liberté de ne pas croire et pas seulement d'avoir une religion autre que la religion musulmane, eh bien, les pouvoirs publics, les autorités violent elles-mêmes, en réalité, un article absolument fondamental de la Constitution, qui est celui de la liberté de conscience.
Ah ouais, Saniguer, vous le disiez, donc, ce mouvement Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles, il est né au Maroc en 2009, il y a une dizaine d'années maintenant, il demandait l'abrogation de la loi. D'abord, je voudrais savoir si c'est un mouvement qui est important sur le plan du nombre, parce qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui, au fond, s'opposent à ce qu'on oblige les gens à jeûner. Et à quand remonte, l'autre question à Wessé-Niguerre, à quand remonte, au Maroc, hein, les premiers mouvements contre la pénalisation du déjeune, du non-jeûne, à Wessé-Niguerre?
Si vous m'y autorisez, je reviendrai rapidement sur ce qu'a dit Sophie Bébé.
Je vous en prie, bien sûr.
Pardon, pour compléter très rapidement. Il est vrai que l'un de nos collègues universitaires au Maroc me disait il y a quelques années qu'il pouvait déjeuner publiquement pendant le mois du Ramadan dans les années 60-70. Et il me confiait qu'il ne pourrait plus le faire aujourd'hui, que c'est impossible. Donc je suis d'accord, il y a une identitarisation de l'islam, plus qu'une confessionnalisation de l'islam, si on devait utiliser cette expression. Donc il y a une forme de repliement ou repli normatif. Tous ces épisodes de déjeuner public, etc., en fait, sont en quelque sorte le révélateur paroxystique de questions qui restent en suspens quant aux libertés individuelles. Puisqu'au Maroc, on vous explique que vous pouvez très bien déjeuner pendant le mois du Ramadan, mais il faut le faire secrètement. Donc, qu'est-ce qu'une liberté individuelle quand elle ne peut pas s'exprimer publiquement? Par ailleurs, au Maroc, en 2011, la Constitution, donc la réforme constitutionnelle qui a abouti à cette Constitution dite libérale ou en progrès par rapport à ce qui précède, en réalité a inscrit la liberté de culte, mais pas la liberté de croyance. La liberté de croyance a été refusée, battue en brèche, puisque des acteurs publics disaient que si on introduisait la liberté de croyance dans la constitution marocaine, demain, ce serait le laisser-faire aux incroyants, à ceux qui souhaiteraient changer de religion. Maintenant, par rapport à votre question de départ, le Mali est groupusculaire, si on peut dire. C'est un groupe évanescent.
Je rappelle Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles, pour les auteurs qui nous retrouvent à l'instant.
Exactement. Si l'on devait utiliser une expression, je dirais c'est un mouvement groupusculaire, c'est-à-dire qui repose sur quelques personnes, quelques figures charismatiques, et évanescent, puisqu'aussitôt né, il a disparu, même s'il existe comme cela formellement.
Mais il y en avait déjà eu par le passé ? Il y en avait déjà eu par le passé ?
Écoutez, à ma connaissance, je dirais non, mais je serais prudent dans ma réponse, puisque je n'ai pas d'éléments objectifs me permettant de dire qu'il y aurait eu un mouvement antérieur à celui du Mali.
Ah ouais, Sénégal, je voudrais poursuivre un tout petit peu avec vous et je vous fais réagir, Sophie Bessis. On le disait tout à l'heure, donc il y a cette loi au Maroc qui pénalise le déjeune. Or, quand on regarde les textes, quand on regarde le Coran, il n'y a rien d'abord qui oblige complètement et surtout il n'y a rien qui punit celui ou celle qui ne respecterait pas le jeûne du Ramadan. Au Maroc, le roi, il a cette particularité, vous l'avez dit tout à l'heure, d'être à la fois le chef de l'État, mais aussi le commandeur des croyants. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il décide au fond de l'abrogation de cette loi pénalisant le non-jeûne? Après tout, il pourrait considérer que la pénalisation, elle n'est pas justifiée puisque c'est pas puni par les textes sacrés et que donc on peut y aller, on dépénalise. Ah ouais, Sénégal, est-ce que c'est tout à fait fou d'imaginer ça?
Non, c'est pas fou, puisque si la parole vient du roi, elle pourra avoir des répercussions concrètes et pratiques. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse le dire, puisque précisément tout l'édifice institutionnel, l'architectonique, si on devait utiliser ce terme, repose en grande partie, ou en partie au moins non négligeable, sur des ressources symboliques de l'islam. Donc j'imagine difficilement un roi qui a fondé, qui a organisé, qui a ordonné l'obéissance, parce que c'est cela aussi. L'observance publique du Ramadan, c'est tester en quelque sorte, l'obéissance au roi, qui lui-même est commandeur des croyants, et observant le jeûne. Par conséquent, j'imagine difficilement cette possibilité, d'autant plus qu'on en a eu quelques signaux au moment du débat, avant la réforme de 2011. Est-ce qu'on inscrit ou non la liberté de croyance? Le roi n'a pas manifesté ostensiblement le désir d'inscrire cela en lettres d'or dans la Constitution. Donc, par conséquent, l'hypothèse crédible me semble dire que il ne reviendra pas sur cette mise en ordre, cette organisation précise pendant le mois du Ramadan.
On reviendra évidemment sur ce moment de 2011, du début des printemps arabes, avec ce mouvement du 20 février et tout ce qu'il a eu comme conséquence. Mais si on fait un jeu de miroir entre le Maroc et la Tunisie, Sophie Bessis, vous nous disiez tout à l'heure que Bourguiba avait été celui qui s'était montré au fond le plus souple vis-à-vis de cette question du Ramadan. Il s'était même montré en train de boire, je crois, un jus de fruits en public pour bien montrer. Voilà. Et pourtant, il était revenu sur cette question, sur cette autorisation de manger pendant le Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ?
Il n'est jamais revenu officiellement sur cette autorisation, non. Il n'est jamais revenu officiellement. En réalité, on peut diviser le règne de Bourguiba en deux grandes périodes. Oui. C'est les premières années de l'indépendance sont des années de réforme à tout va, et de réformes qui bousculent la norme, incontestablement. Les réformes sur les droits des femmes, bien évidemment, l'injonction, c'est presque une injonction politique à ne pas jeûner pendant Ramadan, une série d'autres réformes qui s'éloignent totalement du droit positif sunnite malékite, qui est le droit positif dominant dans les trois pays du Maghreb, hein, qui sont des pays à presque 100% sunnite et malékite. Et donc cette période de réforme est extrêmement importante, casse la norme, mais se réclame du religieux. C'est-à-dire que même dans le code du statut personnel et la défense de ce code du statut personnel qui accorde aux femmes des droits dont elles ne bénéficient, non seulement dont elles ne bénéficiaient pas auparavant, mais dont aujourd'hui elles ne bénéficient toujours pas dans le reste du monde arabe. Eh bien, chaque réforme audacieuse de Bourguiba a été justifiée par une lecture libérale du texte coranique, c'est-à-dire qu'il s'en est institué l'interprétateur le plus légitime. Et si on prend la fameuse interdiction de la polygamie, l'interdiction de la polygamie a été justifiée par le fait que le Coran est explicitement en faveur de la polygamie, mais implicitement monogame.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution justement de l'interprétation si libérale que vous nous exposez de Bourguiba sur la question du Ramadan, précisément ?
Mais non, de la part de Bourguiba, aucune.
C'est ce que j'avais cru comprendre.
Non, absolument aucune. Bourguiba n'a jamais dévié de cette interprétation-là. Maintenant, ce qu'il est important de voir, c'est qu'en fait, l'interprétation de Bourguiba dit deux choses. Que d'abord, même les autorités, les chefs d'État les plus libéraux et les plus séculiers n'ont pas rompu avec la norme religieuse, qui est une source de légitimation. Alors évidemment, au Maroc, c'est la caricature, parce que le roi étant commentateur des croyants, sa source de légitimité la plus importante est la religion et l'observance, et le contrôle de l'observance. Mais dans un pays de extrêmement libéral, à l'inverse, qu'est la Tunisie, la rupture n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire religieux.
Il y a bien un moment où se fait une rupture, puisque aujourd'hui, vous le dites vous-même, la pression sociale, sociétale est très forte, qu'il y a des mouvements qui demandent effectivement plus de souplesse, etc. Donc ça veut bien dire qu'il y a un moment de bascule. Ça s'est fait quand ? Après Bourguiba ?
La bascule vers plus de conservatisme, vous voulez dire ? Non, ça s'est fait sous le règne de Bourguiba, c'est-à-dire qu'à partir des années 1970 à peu près, vous avez des courants de plus en plus conservateurs, qui au départ, d'ailleurs, il faut bien le dire, ont été encouragés par un pouvoir séculier qui était le pouvoir bourguibien pour lutter contre la gauche qui était l'ennemi principal et qui avait un discours tout à fait séculier, laïque, etc. Donc ces courants ont commencé à devenir de plus en plus puissants à partir du milieu des années 70, compris au sein du parti au pouvoir, et non pas seulement sur ses marges. Ensuite, comme vous le savez, les mouvements de l'islam politique ont acquis évidemment une importance de plus en plus grande et ont travaillé le corps social. Ont travaillé ce corps social de façon systématique, extrêmement importante, qui fait que ce retour du religieux est extrêmement important. Et pour montrer à quel point les partis de l'islam politique ont travaillé le corps social, je voudrais prendre un exemple qui n'est pas en Tunisie, mais en Algérie. En Algérie, par exemple, beaucoup de gens vous disaient, avant la décennie noire, quand le fils était à son acmé, que même dans la sphère privée, ils n'osaient pas manger devant leurs enfants, parce qu'ils avaient peur que leurs enfants le répètent à l'extérieur. Ce qui, on a le droit de manger dans la sphère privée. Qu'ils n'avaient pas le droit, ils n'osaient pas manger devant les femmes de ménage, parce qu'ils avaient peur du « qu'en dira-t-on ». Donc, vous voyez à quel point la pression sociale est importante.
Et elle est aussi très importante du côté du Maroc à Ouest-Séniguère, parce que, alors, je ne sais pas si c'est exact, si vous allez confirmer, mais moi j'ai trouvé une étude qui a été publiée l'année dernière dans un magazine marocain qui révélait qu'au Maroc, 68% des gens considèrent que les personnes qui mangent, qui boivent ou qui fument pendant le ramadan doivent être sanctionnées. Autrement dit, qui sont favorables à la question de la pénalisation. Alors moi, j'ai deux questions. Est-ce que ce chiffre vous paraît plausible à Ouest-Séniguère? Et au fond, comment le comprendre? Et est-ce que ça veut dire, je vous posais tout à l'heure la question de savoir si le roi pourrait décider, pourquoi pas, d'une dépénalisation. On voit bien que si l'opinion y est particulièrement défavorable, on imagine là que dans ce contexte, ça paraît tout à fait improbable à Ouest-Séniguère.
Les chiffres que vous avancez sont peuvent être tout à fait crédibles. Si on se réfère à une étude qui a été faite par des collègues en 2006, on a à peu près les mêmes résultats. Mmh. On peut affirmer, sans grand risque d'être détrompé, qu'il y a un tropisme conservateur de la société marocaine. Ça ne veut pas dire que tous les Marocains observent de la même manière, qu'ils ont le même rapport aux religieux. Bien sûr qu'il y a une forme d'individualisation du croire. Mais il y a ce que le philosophe belge appelle, Marc Ougnadi appelle le paralogisme identitaire. Qu'est-ce que le paralogisme identitaire? Dès lors que on proclame par le haut, par le bras séculier de l'État, qu'il y a une identité islamique, il faudrait croire d'une seule manière. Il y a une forme d'homogénéisation, de patrimonialisation de l'identité musulmane. Et cela a des effets extrêmement concrets sur la société. Et vous disiez tout à l'heure par rapport à l'historique ou l'historicisation de l'idéologisation de l'islam. Et en réalité, effectivement, sur la plupart des scènes politiques du monde arabe majoritairement musulman, il y avait une hégémonie de la gauche, de l'extrême gauche, dans les universités, dans les syndicats, dans les lycées. Et Hassan II, au moment où justement il lance ses causeries religieuses, et ça fera la transition avec ce qu'on dira tout à l'heure, le 25 décembre 66, c'est pour contrer l'idéologie laïque supposément athée, matérialiste, qui était en vogue à l'époque. Citons Mehdi Ben Barka, en 65, qui réclamait, qui a été enlevé et assassiné à Paris en octobre 65, qui réclamait une constituante. Et Hassan II, comme il voyait venir monter cette grogne des courants de la gauche et de l'extrême gauche, gauche progressiste, encore une fois, qui réclamait une répartition rationnelle du pouvoir au lendemain de l'indépendance, Hassan II a fait ce qu'on pourrait appeler de l'islamisme à la place de l'islam. Et il a organisé cela à travers les causeries religieuses à partir de 66 et par toute une série de réformes, d'idéologisation de l'islam dans les lycées, etc. Mmh. Vraiment, ça a été organisé.
Les causeries religieuses du mois de Ramadan, je propose d'écouter un extrait de la 7e causerie qui se tenait l'année dernière, c'était le 8 juin 2018, au Palais Royal de Rabat, donc un cycle de causeries religieuses organisées à cette occasion du Ramadan. Voilà donc un peu l'atmosphère à Ouest-Séniguère lors de ces causeries religieuses organisées à l'occasion du Ramadan. C'était là au Palais Royal de Rabat le 8 juin 2018. Il faut imaginer donc le roi Mohamed VI assis, écoutant d'abord un conférencier qui raconte un certain nombre de choses, ensuite lui prenant la parole, évoquant un certain nombre de choses. J'aimerais à Ouest-Séniguère que vous nous éclairiez sur ce que sont et ce que représentent ces causeries religieuses du Ramadan, d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue politique à Ouest-Séniguère.
Il y a, on l'a dit, on y a insisté, et je pense qu'on a raison, à la fois le volet spirituel et religieux, c'est vrai. Mais quand on analyse, et le volet politique vient en surplus, en appui de ce discours religieux, et c'est indissociable. En réalité, il y a une vocation à la fois spirituelle, parce qu'il y a une demande de la société, simplement. Il y a des Marocains qui ont le désir et qui éprouvent le besoin de croire, d'écouter des prêches. Mais si l'on devait simplement en revenir aux dernières causeries de 2018, on voit que l'aspect politique est présent. J'ai fait une recherche rapide, synthétique, et si l'on regarde de près ce qui a été dit au moment des causeries religieuses en juin 2018, on voit que celui qui prend la parole, c'est-à-dire que c'est un invité, un professeur, un alim, c'est-à-dire un savant ou un sachant en religion, qui vient parler devant le roi, le sujet, c'était l'Afrique. Et le roi, l'intervenant présentait l'obligation, en quelque sorte, du Maroc à subvenir aux besoins des amis africains, des frères africains, pour dire que le ciment, c'est le soufisme, l'identité islamique. Et comme par hasard, j'ai écouté le bon mot de Sophie Bessis, c'est l'Afrique. Et le Maroc apparaît aujourd'hui comme la figure tutélaire, la courroie de transmission entre l'Afrique et la rive nord de la Méditerranée. Et
surtout que le Maroc a fait son retour dans l'Union africaine, hein, je rappelle. Donc
c'est ça.
Donc ça veut dire que ce sujet-là, et Sophie Bessis, je vous fais réagir tout de suite, mais ce sujet-là, il n'est pas choisi tout à fait par hasard, et qu'il y a évidemment une visée politique à tout ça, à Wessel Nier, c'est très clair.
Il est choisi sauf par hasard.
D'accord.
Le Maroc, c'est bien évident, a une diplomatie religieuse.
Sophie Bessis.
Le Maroc a une diplomatie religieuse en direction de l'Afrique, c'est l'évidence. Ouais. Et le Maroc, maintenant, forme des imams et des oulamas subsahariens dans ses écoles. Donc là,
C'est l'occasion, justement, diplomatie de déployer tout ça.
Extrêmement dynamique de la part de la monarchie chérifienne. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très important qui a été dit. Et qui a contribué à cette réislamisation, c'est que à partir de l'émergence des partis, des formations de l'islam politique, des islamistes, eh bien, tous les pouvoirs, absolument tous, je crois qu'il n'y a pas une exception à cela, ont réprimé férocement les mouvements islamistes et leurs dirigeants, tout en réislamisant la société par le haut. Je vous en donne un exemple, puisque vous parlez de Bourguiba tout à l'heure. Bourguiba, qui était un rationaliste confirmé, puisque son philosophe préféré était Auguste Comte, d'ailleurs, avait institué au début de l'indépendance, en disant cette histoire du croissant de lune et de la nuit du doute, c'est stupide, nous avons des calendriers astronomiques où on peut voir le début et la fin du mois de Ramadan dans 3 millions d'années, donc on va instituer le Ramadan avec le calendrier astronomique et au début...
Mais c'est toujours le cas, on te dit aujourd'hui.
Pas du tout,
pas
justement.
Du tout.
Justement, c'est là que je voulais en venir. Donc, calendrier astronomique, et quand vous aviez les calendriers au début de l'année, il y avait début du Ramadan, fin de Ramadan. Ben Ali, en arrivant au pouvoir, a d'abord voulu mettre les islamistes dans sa poche avant de les réprimer. Et une des premières mesures qu'il a prises, c'est de réinstaurer la vision lunaire du Ramadan.
Et cette fameuse nuit du doute.
Et cette fameuse nuit du doute.
Qui existe du côté du Maroc.
Voilà. Et de réinstaurer, il a fait deux choses. D'ailleurs, il a réinstauré la vision lunaire à la place du calendrier astronomique et l'annonce des cinq prières quotidiennes à la télévision. Donc, vous voyez, cette réislamisation par le haut des pratiques a constitué un coup d'accélérateur extraordinaire à la réislamisation sociétale que l'on observe dans tous les pays.
Ouais, la nuit du doute, c'est ce fameux moment, cette nuit où il faut voir visuellement, on regarde et si on ne voit pas le croissant de lune, c'est pas encore le Ramadan, il faut attendre. Tant qu'on ne l'a pas vu, ça commence pas. Ah ouais, Sénégal.
Oui, alors il y a une dimension stratégique et tactique dans l'usage et le recours aux ressources symboliques de l'islam. La dimension tactique, c'est conjoncturellement, comme l'a fait Hassan II en 66 et ensuite en 68 et à d'autres moments, c'est dans des contextes particuliers où il y a une montée en puissance des mouvements, des courants de l'islam politique, tenter de leur couper l'herbe sous le pied, éviter qu'ils ne mordent sur sa légitimité propre. Puis il y a une dimension stratégique, c'est le plus long terme, veiller à assurer la prééminence de la monarchie marocaine dans le concert des nations africaines, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, il y a vraiment, vous voyez, et puis le religieux a une vocation à usage interne, beaucoup, hein, organiser l'obéissance, on l'a dit et répété, mais aussi à usage externe, faire en sorte que finalement le royaume du Maroc soit aussi une référence pour l'islam européen. Et on sait l'investissement du Maroc dans la formation des imams à destination de la France. D'ailleurs, des prédicateurs ont été envoyés pour le mois du Ramadan. Et le désir aussi, d'une partie au moins des autorités françaises, de former des imams français au Maroc. C'est dire que le Maroc jouit de cette image de promoteur de l'islam du juste milieu qui, je le dis souvent en plaisantant, et pourrait être résumé à cette formule géométrique. La circonférence est partout et le centre nulle part. Vous voyez, beaucoup de mouvements se réclament du juste milieu. Le Maroc reste un pays très conservateur, donc dire qu'on est du juste milieu, ça ne présuppose pas que vous allez dans un sens plus libéral.
Sophie Bessis, et puis ensuite on retrouvera Akram Belkaï dans un instant.
Oui, c'est très bien que l'on retrouve Akram El Kaïd, parce que nous avons très peu parlé de l'Algérie, et qu'en Algérie, pendant le mois de Ramadan, les déjeuneurs sont systématiquement pourchassés. Et ça, c'est... je voudrais, pour ajouter, c'est qu'effectivement, au Maghreb, nous parlons tout à l'heure de la prééminence du sunnisme de Malikite, c'est quand même une des branches, puisqu'il y a quatre branches juridiques dans l'islam sunnite, c'est une des plus conservatrices, il ne faut pas l'oublier, par rapport au hanéfisme, par exemple, qui est une branche beaucoup plus surtout qui existe en Turquie, et donc qui a essaimé dans tout l'Empire ottoman. Eh bien, le sunnisme malikite est une version du droit positif musulman toute extrêmement conservatrice. Donc, il est tout à fait juste de dire que c'est un juste milieu qui n'est pas vraiment au milieu.
Allez, direction l'Algérie, les années 90, la décennie noire, des années d'horreur où le temps de Ramadan était particulièrement redouté. On a même parlé de Ramadan sanglant. On retrouve Akram El Kaïd, qui est journaliste, qui était en Algérie justement à cette époque. Et il revient sur ces terribles Ramadans des années 90. Il est au micro de Maïder Gérard.
Au début des années 90, l'armée algérienne a interrompu un processus électoral qui devait conduire à la victoire de l'ex-Front islamique du Salut, parti islamiste. Et cette annulation du scrutin a été le déclencheur de violences, puisque de nombreux militants islamistes ont pris les armes pour justement abattre le gouvernement algérien, pour le faire tomber, pour instaurer une république islamique, ou en tous les cas pour relancer ce qu'il prétendait être leur objectif étant de remettre le fils au pouvoir. Et ça, ça intervient au début des années 90, et les violences ont duré une dizaine d'années, avec une montée en puissance crescendo, avec des attentats, des enlèvements, des attaques contre des ressortissants étrangers, et puis même de terribles massacres de populations qui ont eu lieu un peu plus tard, à partir de 1996-1997.
Et donc, à cette période-là, il y avait ce qu'on appelle les ramadans sanglants. Il y avait une recrudescence de la violence pendant le ramadan. Pourquoi à ce moment-là, il y avait plus de violence ?
Alors, dès le début de la décennie noire, les ramadans sont marqués par une explosion de violence. C'est par exemple pendant le ramadan que ont eu lieu les premiers attentats contre des personnalités, contre des intellectuels par exemple, ou des attaques contre des garnisons. Et très vite, la population est arrivée à redouter les ramadans parce que justement, même après des périodes d'accalmie pendant le reste de l'année, le ramadan constituait à chaque fois une occasion, en tout cas une circonstance favorable à la violence. Et ça vient du fait d'une interprétation, d'une lecture de l'histoire musulmane par les groupes armés, puisque le ramadan n'est pas un mois neutre dans l'histoire de l'islam, des premiers temps de l'islam. C'est pendant le ramadan, par exemple, que a eu lieu la première victoire importante des premiers musulmans contre les polythéistes de la Mecque. Là, ça remonte à 624, c'est la bataille de Badr. La prise de la Mecque en 630 par les musulmans a lieu aussi pendant le ramadan. La première bataille d'envergure qui va ouvrir la voie à l'islamisation de l'Andalousie, ça a lieu aussi pendant le ramadan. Donc tout ça est dit et répété par les oulémas, par les docteurs en religion, par les théologiens, et c'est une exhortation donc à combattre encore plus pendant le ramadan. Il y a aussi une lecture plutôt spécieuse d'un verset du Coran, dont il y a une sourate, la deuxième sourate, il y a un verset dont une lecture peut pousser à user d'encore plus de violence, en tous les cas à combattre les ennemis de la religion encore plus pendant le ramadan. Et c'est cette lecture que font ou que faisaient les groupes armés algériens qui considéraient que donc ils devaient s'inscrire dans cette tradition de bataille et de combat et exercer une pression encore plus forte sur le pouvoir et ceux qu'ils qualifiaient d'alliés du pouvoir pendant le jour du ramadan. Et pour la population, ça devenait une période très très difficile à vivre parce que Elle était vue, alors que souvent elle est vue approcher avec une espèce de d'impatience, d'exaltation. C'est très festif, c'est très familial. Là, pour le coup, c'est devenu une période de tension, de crainte encore plus forte que le reste de l'année, encore une fois, où les violences existaient aussi, mais elles étaient parfois moins, elles étaient plus espacées.
Est-ce qu'il y avait des populations particulièrement visées pendant le ramadan ?
Par exemple, des ramadans de 1993 et de 1994, il y a eu des personnalités, des intellectuels qui ont été visés, des étrangers aussi. Donc, il fallait qu'il y ait des actions retentissantes. Et quand on s'attaquait, quand un groupe armé s'attaquait à un journaliste, à un écrivain ou à un ressortissant étranger, ou voire même à des religieux, donc des religieux chrétiens hein, qui vivaient dans le pays, ça avait bien plus d'audience et bien plus d'impact sur le plan médiatique et sur le plan international que des attentats habituels, si j'ose dire, contre les forces de l'ordre. C'était surtout une catégorie professionnelle, des gens connus, des gens qui s'étaient engagés contre les islamistes, des artistes aussi. Il y a eu énormément d'attaques et d'actes de violence contre ces personnes-là. Mais au fil du temps, depuis la fin des années 90, cette manière de voir le ramadan s'est un peu ou beaucoup diluée. Hein. C'est-à-dire que les actes de violence ont disparu. Le ramadan a repris, je dirais, sa nature à la fois religieuse et culturelle, familiale et sociale. Mais d'autres pays sont concernés.
Les Algériens, ils s'en souviennent de cette période-là. Est-ce qu'ils sont encore marqués par ces moments-là ?
Les plus âgés, oui. La génération qui a vraiment bien vécu, qui était adulte au moment des ramadans noirs. Aujourd'hui, la jeunesse, non. La jeunesse n'a pas connu... cette jeunesse qui est en train de manifester dans les rues, par exemple, elle n'a pas connu cette période-là. Le ramadan, là, ça n'a pas duré... longtemps, ça a duré pratiquement une décennie, moins d'une décennie, mais ça n'a pas modifié fondamentalement la donne et la manière de voir les choses. Ceci dit, les autorités font toujours preuve de prudence. Il y a quelques mesures de sécurité qui sont prises parce qu'il y a encore quelques groupes armés qui activent en Algérie. Par prévention, par mesure préventive, les autorités sont un peu plus vigilantes pendant ce mois-là. Et je vous disais que d'autres pays connaissent par contre, eux, aujourd'hui, des ramadans difficiles et inquiétants. Je pense à l'Irak, puisque c'est un pays où beaucoup de groupes armés djihadistes sévissent et aussi ont la même lecture du ramadan. Il y a des actes de violence fréquents dans Bagdad et les grandes villes irakiennes pendant la période du ramadan.
Est-ce que vous pensez que le ramadan va changer quelque chose dans les manifestations qui se déroulent en ce moment en Algérie ?
Alors c'est très difficile de manifester de jour si on jeûne, donc c'est toute la question. C'est aussi le pari du pouvoir qui espère que le ramadan va constituer un facteur d'essoufflement du mouvement. Beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, ont établi des manières de contourner tout cela. Certains proposent de manifester la nuit, donc après la rupture du jeûne. D'autres proposent de manifester tout de même juste avant la rupture du jeûne. On va voir, mais en tout cas, la détermination des gens est suffisamment grande, à mon avis, pour que le ramadan ne constitue pas un handicap pour les manifestants. On est au mois de mai, il fait encore frais à Alger, c'est pas un ramadan qui tombe au mois d'août, donc pour les manifestants, c'est déjà un point en plus. Il n'y a pas une volonté de durcir. Le ramadan ne saurait être pour les manifestants l'occasion de recourir à la violence et à casser l'image pacifique du mouvement. Bien au contraire, on voit passer beaucoup de discours sur le fait que le ramadan doit être le moment où les manifestants doivent encore faire preuve d'encore plus de civisme que pendant les semaines précédentes. Et donc, notamment, on a vu, par exemple, des mouvements de gens qui nettoient les rues après les manifestations. Voilà. Donc, les gens disent, on va être plus attentif à ce qui nous entoure et à être plus respectueux des biens et des personnes. Mais c'est vrai que si le jeûne est quand même quelque chose de très éprouvant, notamment pour les personnes âgées, et on sait qu'aujourd'hui, à Alger, on manifeste en famille avec les enfants, mais aussi les personnes âgées sortent et manifestent, marchent. Bon, c'est évident que pendant le ramadan, ça va être plus difficile à faire, d'où peut-être l'idée de faire ça sur des durées moins longues, mais dans la journée, voire de se retrouver après la rupture du jeûne. Habituellement, ce sont des moments où les gens sortent beaucoup. Alger est une ville morte en règle générale la nuit pendant l'année, sauf pendant le Ramadan où les gens sortent à l'extérieur, vont voir leur famille, font des courses. Enfin, il y a toute une vie nocturne qui n'existe pas le reste de l'année. Et il est possible que cette vie nocturne soit favorable à la poursuite de la contestation.
Voilà, Akram Belkaïd au micro de Maïder Gérard. Akram Belkaïd qui est par ailleurs auteur de L'Algérie, un pays empêché, en 100 questions, qui est paru aux éditions Talendier. Sophie Bessis, est-ce que vous pensez qu'il faut s'attendre à ce que le Ramadan produise un effet d'essoufflement sur le mouvement qui existe aujourd'hui en Algérie?
Ce n'est pas sûr. Je vais vous en donner un exemple qui a eu lieu en Tunisie. En début juillet 2013, en Tunisie, a éclaté une crise très grave après le deuxième assassinat politique d'un homme anti-islamiste. Et l'opinion publique, les partis d'opposition, les organisations de la société civile avaient demandé l'arrêt des travaux de l'Assemblée. Et la crise était extrêmement profonde. Et en fait, le gouvernement dirigé par les islamistes, qu'on appelait le gouvernement de la Troïka à l'époque, a cédé, bon, pour un tas de raisons, bien sûr, mais pour le fait que pendant plus d'un mois, c'était en plein mois de Ramadan. C'était en plein été le Ramadan à l'époque. Maintenant, on avance, on recule plutôt vers l'hiver, mais c'était en plein été. Tout le mois de Ramadan, les manifestations nocturnes ont été organisées devant le Parlement, devant le palais du Bardo. D'ailleurs, avec tous les commerçants du coin qui apportaient à boire, à manger,
donc ça veut pas
etc.
dire que la mobilisation
et donc, s'essouffle. Il peut très bien y avoir une mobilisation nocturne toute la soirée et toute la nuit. Ça a été le cas en Tunisie en 2013, pendant le Ramadan 2013.
Ah ouais, Séniguer, même question. Quand on regarde l'histoire récente du Maroc, est-ce qu'on peut se dire que aussi, il y a des cas qui montrent qu'au fond, ça pourrait ne pas s'essouffler du tout à ouest Séniguer? Dernière question, on arrive au terme de l'émission.
Je n'ai pas d'événement particulier à citer, mais je dirais que peut-être que les manifestants souhaiteront faire démentir tous les pronostics s'agissant du cas algérien. En d'autres termes, hiberner la journée et agir et réagir le soir. Donc il est pas certain du tout qu'en Algérie, en tout cas pour ce qui est du Maroc, c'est autre chose, qu'il y ait une démobilisation des manifestants. سلام سلام حطيته فوق كتاف ونحيفه وزالي عارف راحته فين بقات تكاو بكا.
Merci beaucoup à tous nos invités, à Akram Belkaïd qui est avec nous par téléphone, l'Algérie, un pays empêché en 100 questions chez Talendier. Un grand merci Sophie Bessis d'avoir été avec nous également. Toujours chez Talendier, pardon, Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours qui vient de paraître. On mettra évidemment la référence sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Un grand merci à Ouest Séniguer d'avoir été avec nous en duplex de Chambéry. Je remercie également les techniciens vous concernant l'année dernière, un ouvrage collectif Spiritualité et engagement dans la cité aux éditions du Bordolo. Pareil, on met ça évidemment sur la page de Culture Monde. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Il y a peu de gens dont la mort marque la fin d'une époque et Karol Modzelewski en faisait partie.
Oui, c'est ce qu'écrit Irina Grudzińska-Gross, essayiste et universitaire qui faisait partie du milieu contestataire des années 60 polonaises. Modzelewski, qui était à la fois un homme politique de premier plan et un éminent historien, est mort à Varsovie le 28 avril à 81 ans. Comme je regrette aujourd'hui de n'avoir pas répondu à l'invitation qui m'avait été adressée d'assister moins de 3 semaines plus tôt à une ultime rencontre avec lui organisée à Paris, à l'occasion de la publication de ses mémoires. Il leur avait choisi pour titre « Nous avons fait galoper l'histoire, confession d'un cavalier usé ». Karol Modzelewski, infatigable combattant de la liberté et de la justice, a parcouru son époque au grand galop et l'a marqué de son talent. Karol Modzelewski est né Cyril Boudniewicz, figurez-vous, à Moscou en 1937. Son père étant condamné à 8 ans de goulag, sa mère se remarie avec un Polonais, Zygmunt Modzelewski, qu'il adopte et qui deviendra ministre des Affaires étrangères dans son pays après la guerre. Cyril, devenu donc Karol, entame des études d'histoire à l'université de Varsovie, il adhère au Parti communiste. Avec son ami Jacek Kuroń, activiste infatigable et organisateur hors pair, ils vont former l'un des duos les plus populaires parmi la jeunesse polonaise contestataire des années 60. En 1965, Modzelewski et Kuroń, 27 et 30 ans respectivement à l'époque, rendent publique une lettre ouverte au Parti ouvrier unifié polonais, le Parti communiste local, d'une audace incroyable. La propriété des moyens de production, y écrivent-ils, est tombée entre les mains d'une nouvelle classe, la bureaucratie politique centrale. Le parti est monopolistique et la base n'y joue aucun rôle. Les élections sont des fictions, en l'absence de partis d'opposition autorisés. Les travailleurs sont exploités et livrés à l'arbitraire du pouvoir, puisque l'organisation syndicale autonome, hors du parti, leur est interdite. Le socialisme en Pologne peut se définir d'après eux comme la production pour la production, ce qui ne peut manquer de provoquer la chute du niveau de vie de la classe ouvrière et des crises en série. Les deux jeunes gens préconisent carrément un référendum pour déterminer démocratiquement quelle part du revenu national devrait être consommée et quelle part investie, et une nouvelle révolution anti-bureaucratique. Ils sont accusés de trotskisme, ils ne le sont d'aucune manière.
C'est une critique, Brice, qui fait très mal parce qu'elle vient de la gauche et qu'elle s'exprime dans les termes du marxisme, celui-là même dont se sert le régime en place.
Et la riposte ne se fait pas attendre. Exclus du parti, des jeunesses socialistes et de leur poste d'assistant à l'université, les deux jeunes activistes sont jugés à huis clos et écopent de 3 ans et 3 ans et demi de prison. Libérés prématurément durant l'été 1967, les deux amis se retrouvent aux premières loges lors des événements de mars 68, une révolte étudiante provoquée par l'interdiction de jouer un classique de la littérature romantique polonaise, Les aïeux de Mickiewicz, réprimé très brutalement par la milice. Mais les ouvriers ne sont pas solidaires. Et Modzelewski tirera la leçon de cet isolement. Le Parti communiste accuse, je cite, « la jeunesse dorée et les sionistes d'en être les instigateurs ». Un procès collectif est organisé contre un certain nombre d'entre eux. À ces accusateurs, Modzelewski lancera « Vous avez dit, monsieur le procureur, que la base de ce qui nous unit et nous a conduits ici sur le banc des accusés, c'est notre origine juive ». Eh bien, il y a eu effectivement un pays où l'on devait répondre de ce genre d'origine, et c'était l'Allemagne nazie. Mais ici, en Pologne populaire, il n'existe pas de loi de Nuremberg en vigueur. Il retourne en prison pour 2 ans. Il y poursuit ses études. Lorsqu'il en sort, en 1971, il est devenu une autorité en matière d'histoire médiévale. Mais en 1980, il renonce à ses travaux savants et rempile aux côtés des ouvriers révoltés. C'est Modzelewski qui baptise le syndicat naissant Solidarność, Solidarité. Il en est le premier porte-parole. Au sein du syndicat, il incarne une ligne de gauche, plus sociale que patriotique. Lorsque le général Jaruzelski proclame l'état de guerre en décembre 1981, Modzelewski est à nouveau emprisonné. Mais lorsque le régime se voit contraint d'organiser les premières élections libres depuis la guerre en 1989, l'historien est élu sénateur. Alors que l'ancienne opposition au régime communiste découvre la démocratie et se divise en tendances opposées, il incarne, lui, une gauche hostile à la libéralisation économique au galop menée par Balcerowicz. Il devient président d'honneur d'un nouveau parti de gauche, l'Union du Travail. Karol Modzelewski était un grand historien. Vous pouvez l'entendre s'exprimer en français, qu'il maîtrisait fort bien au micro d'Emmanuel Laurentin dans son émission « La fabrique de l'histoire » du 28 septembre de l'an dernier, référence de cette émission sur le site.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver également sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.